vous avez peut-être reconnu la Royal Canadian Navy March. En fait, ce dimanche, ça va être le jour du souvenir. C'est une journée qu'on prend depuis très longtemps pour se souvenir de nos compatriotes qui sont allés se battre à l'étranger lors des différentes guerres, des différents déploiements. Au début, c'était vraiment pour la Première Guerre mondiale. On voulait souligner l'effort des vétérans qui avaient été combattre lors de la Première Guerre mondiale, 14-18. Ensuite, on a inclus d'autres guerres là-dedans, entre autres la Deuxième Guerre mondiale. Mais maintenant, il y a même l'Afghanistan. On met tous les conflits guerriers parce que chaque conflit guerrier ramène et ravive des douleurs. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on prenne le temps de souvenir de ça. Puis je pense qu'on a tout quelqu'un dans notre famille, de près ou de loin, qui a participé ou qui a connu quelqu'un ou qui devrait se remémorer ce que ça veut dire s'engager dans l'armée, donner une partie de sa vie pour sauver certaines personnes. Des fois, c'est dans ton propre pays, mais comme à l'époque, la Deuxième Guerre mondiale, où des Canadiens sont allés, on parle de la bataille de Vimy. J'entendais mon collègue Marc Brière ce matin parler de quelqu'un proche de lui, dans sa famille. On en a tous. Moi, ce matin, je vous en parle un peu chaque année. C'est mon moment où je rends hommage à mon grand-père paternel, Jean-Pierre Armand Maréchal, prisonnier 43989 du camp de concentration d'Auschwitz en Allemagne, où il a été finalement exécuté en février 1945, quelques mois seulement avant la fin de la guerre. On a tous, peut-être qu'au Québec, on est plus loin de ça. Pour les Européens, c'est quelque chose de beaucoup plus vivant encore aujourd'hui. Là, vous allez dire, la Deuxième Guerre mondiale, fille, c'est loin. Oui, mais moi, je le dis à mes filles, parce que je pense que c'est notre devoir de parler de ça. Parce qu'ils sont morts. Première Guerre mondiale, ils sont morts. Deuxième Guerre mondiale, ils sont morts aussi. Là. Il en reste plus gros. Mais en ce moment, près de nous, on a des gens qui sont allés en Afghanistan, qui ont été, ne serait-ce qu'en Haïti aussi, pour aller aider des gens qui sont dans des crises humanitaires, qui voient des choses extrêmement terribles. Alors, je voulais vous présenter des témoignages d'anciens militaires, parce que la question qu'on se pose pas assez, en fait, faudrait dire, c'est est-ce qu'il y a une vie après l'armée? Et la réponse, là, c'est que c'est difficile d'en avoir une. C'est vraiment difficile. Philippe Lacroix est un ancien militaire qui, comme beaucoup aujourd'hui, souffre d'un syndrome de choc post-traumatique. Merci beaucoup, Philippe, d'être avec nous.
Oui, merci.
Je suis vraiment très touchée que vous ayez accepté de venir. Merci bien. Mélanie Saint-Onge, aussi ancienne militaire réserviste. Aujourd'hui, elle recrute, elle réhabilite des militaires qui sont sortis de l'armée, entre autres pour le compte de Garda World, où la sécurité devient un milieu où vous acceptez beaucoup, parce qu'il y a quelque chose de connexe, là, vous allez nous l'expliquer. Mélanie, vous envoyez beaucoup là, des gens qui sortent de l'armée, qui sont un peu amochés, là.
Oui, ben tout à fait. C'est sûr que nous, quand on les reçoit, souvent les dépressions, l'isolement et tout a été déjà un enjeu que le gouvernement a essayé de les aider. Nous, dans le fond, on va les réhabiliter à avoir une deuxième vie, un travail, une formation, parce qu'on s'entend, dans le milieu de la sécurité privée, tout ce qu'ils ont acquis dans les forces militaires, c'est pour nous, c'est des acquis incroyables.
Surtout comme Philippe, par exemple. Philippe, vous êtes entré dans les forces canadiennes en 2006.
Oui.
Ça a été une vocation sur le tard, comme on dit.
Effectivement.
Vous en êtes ressorti donc 11 ans plus tard, en décembre dernier, décembre 2017. Donc, ça va faire un an. Vous avez été déployé deux fois en Afghanistan. Ça a été quelque chose, votre expérience, là.
Oui, en effet. En fait, à toutes les fois qu'on va dans ces types d'opérations, on revient un peu différent, disons. Ça a un impact sur beaucoup de, je dirais, de valeurs, puis de... Ça met en contraste beaucoup de choses qu'on ne réalise pas nécessairement ici. Et puis, ça a aussi un effet sur, je pourrais dire, donc, ça a toujours un effet, je dirais, diminuant au niveau des capacités à tolérer le stress et puis aussi à tolérer les irritants, étant donné que lorsqu'on est en opération, on met toutes ces choses-là de côté. On est dans un esprit de service, puis et toute notre énergie, toute notre concentration passe aux activités régulières de la journée.
Vous vous oubliez complètement, là. Vous n'êtes plus une personne, vous
non.
Faites partie d'un groupe. Là.
C'est ça.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez vécu en Afghanistan? Qu'est-ce que c'était votre travail là-bas?
Bien, le premier déploiement, j'ai été attaché au centre de détention détention canadien, mm-hmm, pour les détenus afghans. Donc, lorsque l'infanterie faisait un prisonnier, Donc, nous, on sortait, on allait soit par hélicoptère ou autre moyen. On allait chercher les détenus, les ramener au centre. Et puis, il y avait un processus là, d'admission. Et puis, à ce moment-là, ces gens-là passaient interrogation, toutes les choses de base. Et puis, dépendant des résultats, ben, ils étaient soit relâchés ou ils étaient transférés à d'autres unités.
Mm-hmm. Donc, et votre deuxième?
Mon deuxième, c'était au niveau de l'ambassade canadienne à Kaboul.
Mm-hmm.
Donc, j'étais en charge des mesures de sécurité là, pour le personnel, puis en fait, toutes les bâtisses qu'on avait là, autour de ça.
Vous avez été blessé au dos en Afghanistan, d'ailleurs.
Oui.
Vous êtes revenu épuisé, brûlé. On vous a diagnostiqué donc un choc post-traumatique.
Oui, c'est ça. Ça a été. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le choc post-traumatique a été identifié comme étant lors du premier tour, en 2009-2010.
Mm-hmm.
Et puis, mais vous savez, à ce moment-là, on faisait. C'était un tour de 7 mois. Et puis, on
un retour, comme on dit.
Une retour, oui, ouais. Exactement. Ça prenait bien les termes. Non, c'est ça. C'était 12 heures par jour, 7 jours par semaine pendant 7 mois. Pas de journée de congé, pas rien. Donc, je suis revenu de là au bout de 7 mois, là, vidé physiquement, mentalement. Puis, j'ai eu 3 semaines de vacances. Et puis, je suis retourné aux patrouilles tout de suite après. Puis, encore là, mauvaise expérience. Mon premier appel, le samedi matin que je rentrais, c'était un jeune qui s'était suicidé. Et puis, il a fallu s'occuper de la scène de...
Un jeune militaire?
Non, c'était un jeune de 15 ans, l'enfant d'un autre militaire qui était sur la base. Donc, on l'a retrouvé dans un arbre.
Oh mon Dieu.
J'irai pas plus loin.
Ouais, ouais. Ah, oh, c'est affreux.
Ouais, c'est ça.
C'est dur pour les familles, c'est dur pour les enfants, c'est dur pour tout le monde aussi.
C'est dur pour tout.
Je lisais, il y a un livre qui sort ces jours-ci qui s'intitule Moi, soldat. C'est 30 récits de service et de sacrifice. Et je trouve que le sous-titre est vraiment intéressant. J'ai lu hier soir, sincèrement, puis c'est l'honorable Roméo Dallaire qu'on connaît bien, qui a été lieutenant général des Casques Bleus, qui a lui-même été diagnostiqué avec un choc post-traumatique, qui dit que chaque soldat a son histoire, finalement, qui lui est propre, puis avec des fortes expériences, tout de même collectives. C'est un peu ce que vous décrivez, Philippe. Il dit à quel point c'est quand même important d'écouter ça. Est-ce que les forces armées canadiennes ne font peut-être pas assez? On dirait que, puis je lisais là-dedans les témoignages, même quand on ne va pas directement au front, juste le fait d'être en hyper-vigilance tout le temps, tout le temps, avoir l'impression que ta vie est en danger ou si elle ne l'est pas vraiment, on te met dans des conditions de... à un moment donné, on comprend, là, tout le monde sort de là, amoché, avec un choc post-traumatique, puis arrive à la maison sans rien, surtout qu'après, c'est bye-bye Charlie Brown, là, c'est comme, merci beaucoup, ça sera tout. Puis il faut enlever son stock, il faut leur donner. C'est comme une partie de soi qu'on rend à l'armée canadienne, mais on se retrouve chez soi avec rien. Là.
Oui, ça crée un vide. Ça crée un vide qui est difficile, surtout lorsqu'on aime l'emploi qu'on faisait, lorsqu'on aime on aimait la culture, on aimait les expériences qu'on a fait. C'est un gros manque.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Philippe?
Là, présentement, je ne me suis pas retrouvé d'emploi. C'est depuis, décembre dernier, décembre 2017.
Est-ce que vous cherchez ou c'est encore trop difficile pour vous?
Ben là, j'ai débuté. Là, j'ai pris contact avec des gens là, dans différents milieux.
En tout cas, Mélanie peut peut-être vous aider. Je me suis dit, peut-être je vais faire un match parfait ce matin, parce que Mélanie Saint-On, je rappelle, est une ancienne militaire réserviste. C'est autre chose, la réserve, hein? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre. Vous êtes aujourd'hui superviseur senior chez Garda World. Vous êtes aussi porte-parole pour les femmes vétérans de l'armée, les anciennes combattantes, parce qu'il y en a peu, mais il y en a des filles. D'ailleurs, dans Moi, soldat, il y a des histoires fabuleuses d'infirmières sur le front en soins critiques. C'est incroyable ce que les femmes dans l'armée font aussi. Là, aujourd'hui, vous travaillez, ça, je trouve ça super intéressant de parler de ça, Mélanie. Vous travaillez avec l'organisme True Patriot Love. C'est un organisme qui vient en aide justement aux anciens vétérans. Philippe, là, c'est un bon candidat pour vous, je pense. Hein?
Ben, il connaissait aussi True Patriot Love, ouais. Quand on s'en est parlé. Effectivement, dans le fond, c'est un organisme de bienfaisance qui vient en aide aux anciens vétérans. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'au Québec, en tout cas, on n'avait pas d'organisme pour les femmes. On en a pour les anciens soldats, effectivement, mais on n'avait rien de concentré sur les femmes. Et on s'est rendu compte avec le temps que les femmes, même si les deux sexes peuvent avoir des chocs post-traumatiques, souvent les femmes sont laissées avec des enfants. Mm-hmm. Pas parce qu'ils ont été dans les forces qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il y en a eu au cours des années. Puis à la fin, on s'est entendu que souvent, ils n'ont plus le mari, mais c'est eux autres qui ont la garde. Fait qu'en plus, depuis être dans les forces, depuis avoir ce milieu-là, tu te retrouves avec tes enfants.
Mm-hmm.
Et ça, ben, ça crée un stress de plus. Déjà, beaucoup tombent en dépression, beaucoup tombent dans l'isolement, beaucoup ont besoin d'aide psychologique. Et en plus de tout ça, t'as les deux enfants qui te regardent puis qui font comme, ben, moi, il faut que je mange, puis moi, ouais, ma vie continue. Parce qu'eux, c'est pas leur vie, eux. Ils l'ont pas décidé. Donc, nous, on s'est dit, on va s'associer avec eux. Puis, hommes et femmes, mais surtout les femmes, on va se concentrer à essayer de les aider, à leur dire, ta vie est pas finie. C'est juste un nouveau commencement. Donc, nous, on les recrute. On les forme parce qu'il faut qu'ils deviennent être capables de travailler dans la sécurité privée, qui est complètement différent. Mm-hmm. Par contre, on les forme, on les encadre. On le sait qu'il va y avoir des hauts puis des bas, hein. On le sait. Petite répercussion, comme il dit, quand on recommence et c'est travailler après, on a toute la mémoire qui reste. Moi, j'ai des anciens combattants ou des gens qui sont allés au front. Mm-hmm. Puis quand je les mets sur mes contrats, s'il y a une émeute, s'il y a un mouvement de foule, nous, on est sur des contrats, est-ce que ça brasse? Ben, ces gens-là nous le disent, je ne suis plus capable. Mmh. Alors, moi, j'ai beaucoup d'anciens qui sont rendus des chauffeurs privés, des VIP, des gardes rapprochés, parce que sont avec le client, c'est tranquille, sont bien. Si tu les mets en plein milieu de 70 000 de foule à Metallica au parc Jean-Drapeau, puis ça se met à dégénérer, voilà, ils perdent le cap. Et je le sais, et je les sors de là. C'est là qu'on a constaté au fil du temps qu'ils peuvent pas, sont pas tous capables de dire, moi, je peux aller dans n'importe où, tout est beau. Ouais. Non, c'est pas beau. Il faut les encadrer. Puis c'est ça que nous, on a découvert. On va les placer dans des positions, dans des postes qu'ils vont être bien.
C'est que la vie est dure après l'armée, là.
On n'est pas pareil. Ouais. On peut pas reprendre une vie comme tout le monde. Ils pourraient mieux en témoigner que moi.
Mais c'est fou comme il y a énormément de séparations puis de divorces, là. Hey, le livre, là, Moi soldat, c'est juste ça du monde qui sont arrivés, qui se sont séparés.
Ben effectivement, ouais. C'est pour ça qu'on a remarqué au niveau des femmes, c'est que malgré une séparation, souvent, bon, on s'entend même dans le monde civil, 98% mais, ouais, c'est les femmes qui ont les enfants.
Ouais.
Imaginez-vous, elle arrive avec ce choc-là,
ouais,
elle pense sa vie est finie, il n'y a plus rien, puis elle a les enfants, il faut que tu continues à vivre, hein? Là, tu dis, il faut que je vive pour eux autres.
Ouais. Mais déjà, t'as de la misère à vivre pour toi.
Voilà.
Voilà. Ah, moi, je me souviendrai toujours de on avait reçu Marc Dauphin. Ça doit vous dire quelque chose. C'est le médecin militaire. Aujourd'hui, il a pris sa retraite, lui aussi, parce qu'il est sorti de l'armée. Mais c'est lui qui était, il a été pendant un moment en charge de l'hôpital militaire de Kandahar. Je sais pas si vous l'avez connu, Philippe, mais il était ici, là, où vous êtes assis, là.
Ah,
il y a,
oui,
4 ans. Puis il y a 4 ans, je sais pas si vous en souvenez, mais on se rappelait de ça avec l'équipe. Il y a 4 ans, là, il y avait 2 soldats qui ont été tués, pas en Afghanistan, puis il y en a eu, là, mais au Parlement d'Ottawa, mm-hmm, puis à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Ouais, j'étais
à 4 ans, on était là-dedans, là, dans, ouais, le terrorisme qui arrivait chez nous, puis qui faisait les loups solitaires, mm-hmm, qui est une nouvelle affaire qu'on connaissait pas trop, qu'on se disait, voyons, c'est quoi ça? Et Marc Dauphin était là, docteur Dauphin était là. Le métro, des fois, on l'entend ici, la place Bonaventure, dans le studio, là. Écoute, il a fallu que je le rassure. Il était prêt à se coucher sous la table dans le studio. Il pensait qu'on était attaqués.
Ben, je vous crois à 100%.
C'est fou, là.
Ah oui. Ah,
deux fois, on a entendu le métro, puis ça fait comme... C'est vrai qu'on entend comme un... Tu te demandes... Et cette hyper-vigilance, là, te quitte jamais. Et c'est pour ça que le niveau de stress, il est ce qu'il est. Il y a quelqu'un qui me dit, là, Auschwitz, c'est en Pologne. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Elrich Dora. C'est en Allemagne. Je pense que je sais où mon grand-père a été gazé. On va revenir après la pause. 514-790-9850. 1-866-790-9850. J'aimerais ça vous entendre. Si vous avez eu des gens dans votre entourage qui ont été militaires, qu'ils sont en ce moment, que ce soit famille ou vous-même qui l'avez fait. On va parler également à Alain Rivet tout de suite après la pause, un ancien militaire qui a eu de la misère pendant longtemps à se réintégrer à la société. À tout de suite tout le monde. Alain Rivet, un ancien militaire, il a été dans l'armée assez jeune, jusqu'à 22 ans. Il en est ressorti il y a plus de 20 ans avec un stress post-traumatique. Bonjour Alain.
Bonjour Isabelle, ça me plaisir de te parler.
Ben oui, on se connaît bien, puis je suis... Je suis toujours touchée chaque fois que je lis que tu as des petites rechutes de morale parce que c'est difficile encore après toutes ces années, hein, n'est-ce pas, Alain?
Oui, oui, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Les 10 premières années qui ont suivi ma libération ont été les plus pénibles, mais j'ai encore des périodes de dépression. J'ai encore, je suis médicamenté aujourd'hui, là, heureusement, puis j'ai une travailleuse sociale qui me suit. Mais sinon, j'aurais beaucoup de difficultés à fonctionner dans la société.
Pourquoi? Parce que quand, tu m'avais déjà raconté quand t'es sorti, t'étais, ils te disent à quelle heure tu te brosses les dents, à quelle heure tu spites tes bottes, à quelle heure tu fais tout. Puis là, soudain, puis ils te mettent un peu d'argent de côté, tu étais payé un peu, puis tu y touches pas à cet argent-là. Toi, t'es sorti, t'avais un peu d'argent, puis c'est là où t'as eu l'impression.
C'est là que ça a dérapé.
Ouais.
Ça a dérapé. Aujourd'hui, je parle de mon ancienne vie. Une période très sombre de ma vie où c'était un cauchemar là, jusqu'à temps que finalement je réussisse à tomber au bon endroit pour me reprendre en main, retourner à l'école, refaire une formation. Aujourd'hui, je suis mécanicien soudeur industriel, je travaille dans des grosses industries. Je suis fier de ce que je fais, mais j'ai encore des périodes dépressives que, comme j'en ai eu une cet été à cause d'une blessure au travail, c'est constamment dans le fond de mon esprit que il faut toujours que je me prenne en main beaucoup plus que les autres parce que justement j'ai été drillé moi-même, tu sais quoi faire, à quelle vitesse le faire, puis aujourd'hui ben ça persiste, on dirait là, tu sais, c'est on est tellement laissé à nous-mêmes quand on quitte les forces là, que ce soit dans les années 80, 90 ou 2000, les gars sont laissés à eux-mêmes. Il y a des étudiants vétérans. C'est triste, la situation des vétérans aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, hein, Alain?
Oui, oh, ouais, définitivement. Je suis beaucoup, moi, l'actualité militaire, si on veut, là, sur Facebook, ces choses-là. Là. Puis encore trop de souffrance. Les gars, ils sortent, ils sont pas encadrés, ils sont pas aidés. Ils ont des syndromes post-traumatiques bien plus sévères que le mien. Moi, j'ai pas été en territoire guerrier comme eux, ils sont allés. Moi, je suis allé faire une mission de paix qui est totalement différent, là. Ben, il reste le fait que quand tu es libéré de l'armée, c'est comme fini, bonjour, bye, puis il n'y a rien, ils vont pas te tendre la main pour quoi que ce soit. Fait que si tu as un peu d'argent de côté, puis j'étais jeune, ben c'est ça. La vie à Montréal, ça a fait que c'est les années 80, il y a eu des grosses dérapes.
Ah ouais. Écoute, merci d'avoir pris ces quelques minutes. Je sais que tu es dans ta pause. Là, je te retourne faire ton travail. Merci beaucoup, ouais. Alain. Je t'embrasse. Ouais, merci bien.
Je t'embrasse bien fort. Merci.
Merci. C'est important d'être là aussi pour ces amis dont on sait qu'ils vivent des bourrefles. On a Nicole avec nous. Bonjour, Nicole. Nicole, êtes-vous là? Allô, merci. Nicole? Oui?
Oui.
On vous écoute, Nicole.
OK. Moi, mon père, il a fait la guerre de 39-45.
Oui.
Et puis longtemps, j'ai voulu, ben il y a quelques années, là, j'ai voulu faire venir son dossier parce que papa, il a jamais voulu en parler.
Mm-hmm.
Lui, sa façon, par contre, ce qui nous est, ben moi, je suis une curieuse, là, j'aurais voulu poser des questions, mais lui, il évitait ou il venait les larmes aux yeux. Mais par contre, quand il y avait des films de guerre, je me souviens, il descendait dans le sous-sol, il écoutait le film. Peut-être que c'était une façon pour lui de mm-hmm. d'évaporer ça, puis on l'entendait pleurer. Fait qu'on respectait ça, mais moi, ce que je voulais demander à un de vos personnes mm-hmm. qui est avec vous, mm-hmm. J'ai appelé il y a plusieurs années parce que, dans le fond, on sait pas grand-chose. Mm-hmm. On a son numéro de matricule. Mon frère, il a comme un bâton, là, parce que je pense qu'il y avait comme un... Je sais pas s'il était lieutenant, sergent ou... Mais j'aimerais ça finir son dossier parce que nous, on
adjudant.
A des enfants.
Mm-hmm. Adjudant, un bâton.
Mm. Ah, OK. Mais tu sais, je sais pas comment... J'ai appelé, mais on me remet toujours où c'est des boîtes vocales. Moi, j'ai pas d'Internet.
Ouais.
Mais j'aurais aimé ça. Je trouverais ça important que nos enfants puis nos petits-enfants... Ils sachent, là, qu'est-ce qui s'est
tout
passé.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que c'est important, tout à fait, Nicole, de le dire aux plus jeunes. Je sais pas, Philippe Lacroix, est-ce que vous auriez peut-être il y a les Forces armées canadiennes qui détiennent sans doute cette information, mais si c'est d'une boîte vocale à l'autre, ça aide pas Nicole, mais...
Oui, effectivement.
Il y a Internet qui est une source fabuleuse d'informations.
Oui. Ben, mon premier réflexe, ça serait de contacter le VAC, là, les vétérans.
VAC, ouais.
Les anciens vétérans. Et puis, s'il n'y a aucune réponse, ou du moins, il semble pas avoir aucun partage qui se fait à ce niveau-là. Il y a un embodiment aussi qui s'occupe de,
ouais,
de revoir.
Moi, je peux vous dire, tout à l'heure, je donnais le numéro de matricule, le numéro de prisonnier de mon grand-père à Elrich Dora. Nicole, 43989. Ça fait pas longtemps que je l'ai retrouvé, ce numéro-là. Puis c'est après avoir passé des heures sur Internet, sur d'un site à l'autre qui m'amène un document à une liste. Et faut être têtu. Il faut chercher. Mais pendant que vous cherchez, vous gardez le souvenir vivant. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est important. Merci de votre appel, Nicole. On va s'arrêter ici. On va poursuivre avec vos commentaires tout de suite après. Il y a plein de gens qui veulent intervenir. À tout de suite. Bon, ben peut-être pour Nicole, j'ai Annie là, qui m'écrit, qui m'envoie un lien en fait pour faire une demande de dossier pour les personnes militaires. Je vous avoue, j'ai pas eu le temps d'aller cliquer sur le lien pour savoir où ça nous mène, mais c'est www.bac-lac.gc.ca. Puis il y a demande, formulaire en ligne. Il semble que ça soit pour les militaires. Alors, allez là, sinon, on le rappelle, hein, Philippe Lacroix, mon invité, suggérait entre autres de passer par les vétérans. Et aussi ben beaucoup de recherches sur Internet. Faut être très entêté puis fouiller. On a Louise qui nous appelle. Bonjour Louise.
Oui, bonjour. Moi c'est mon papa et ses parents et toute la famille de côté paternel parce que mon père était belge et lui a fait la deuxième guerre.
Ouais.
Mes grands-parents c'est les deux guerres.
Ouais.
Ma grand-mère était garde côtière en Belgique.
Wow.
Mon père il était prisonnier des Allemands pendant un an. Qui l'a sauvé parce qu'il savait parler allemand. Alors, ça l'a sauvé de passer au gaz, comme qu'on dit.
Mm.
Puis, moi, qu'est-ce que je me souviens de mon père? Lui aussi, comme l'autre dame, il était fasciné des films de guerre. Mais lui, il était pas négatif par rapport à ça. Je me souviens pas de le voir dépérir par rapport à ça. C'est le contraire. Moi, ça m'a apporté un positif parce qu'il m'a appris à réfléchir,
mm-hmm.
à me dire dans la vie, il y a deux côtés de la médaille. Puis, il dit, il y a des choses qui sont pires que ça, ma fille. Puis, tu vas voir,
ouais.
si t'apprends à ça... Ben, tu vas passer au travers de
lui. Lui, il avait vécu le pire, fait qu'il était capable de vous dire que.
Exact.
Que tout
oui.
le reste, finalement. Merci, Louise, merci beaucoup. J'ai Marie-Jo qui m'a écrit. Elle disait, entre autres, que là, elle nous écoute, puis elle est un peu perturbée parce que son fils de 23 ans vient tout juste de rentrer au camp des recrues. Samedi dernier, c'est tout frais. Elle dit, j'étais vraiment fière de lui, puis je l'appuie à 100%. Mais là, ce matin, on dirait que je me questionne sur son avenir. Et il se trouve que Philippe Lacroix, notre invité, ton fils,
mon
Philippe,
garçon,
ouais. Ouais, 20 ouais. ans, il s'est enrôlé dans les forces.
Oui,
on est-tu content pareil, même si le papa oui. a un choc post-traumatique? Ouais?
Oui, non, ben disons que je ne l'aurais pas encouragé dans n'importe quel métier de l'armée,
ouais.
parce qu'il y a quand même plusieurs métiers qui sont très intéressants auxquels on n'est pas nécessairement au front. Et puis, ça permet de faire une belle carrière.
C'est passionnant. C'est déjà passionnant.
C'est ça, effectivement.
Mais, ouais.
Donc, dans son cas, lui, il avait déjà été dans les cadets de l'air pendant plusieurs années. Et puis, il a fini son secondaire avec mention. Il avait des super bonnes notes, mais il savait pas quoi faire. Il avait aucune idée qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie. Et puis, moi, je lui ai dit, garde, c'est sûr et certain que faut que tu apprennes à te découvrir. Faut que tu apprennes en fait, faut que tu te challenges toi-même. Pour te découvrir.
Puis l'armée, c'est une bonne place pour
Puis
ça.
L'armée, c'est une bonne chose aussi.
Ouais.
Donc, il a fait un petit bout avec ça comme idée. Puis finalement, il est venu me voir pour me demander, il dit, viendrais-tu avec moi au centre de recrutement? Il dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a comme emploi. Fait que finalement, ce qu'il voulait, lui, il voulait s'en aller comme technicien en avionique. Et puis, il avait aucune ouverture. Donc, il a décidé de prendre un autre métier qui était ouvert. Donc là, il est sur sa formation à Borden comme cuisinier.
C'est chouette.
Oui.
C'est bien.
Tu sais, je veux dire, c'est quand même un métier qui est...
Fait qu'il s'est trouvé?
Oui, oui, oui. Oh, il est super heureux. Il vient faire un tour toutes les deux fins de semaine environ. Et puis, il réussit très bien. Puis, il est bien heureux.
C'est ça. Puis, peut-être ouais. qu'au moment où il sortira de l'armée, parce qu'à un moment donné, on en sort tous, il y aura peut-être son restaurant ou il fera peut-être d'autres
et
choses.
Voilà.
Hein,
ou il peut aussi faire ce qu'on appelle un remaster. Il peut aussi faire quelques années comme cuisinier. Puis lorsqu'il va avoir des ouvertures dans son domaine, là, à ce moment-là, il peut transférer.
Ouais. Pascal est avec nous. Bonjour, Pascal. C'est vous qui m'avez écrit qu'après 26 ans de service, c'est possible quand même de s'en sortir?
Bien, absolument. Moi, je pense que C'est vrai que la vie après l'armée, quand on sort, c'est pas nécessairement facile parce qu'on se cherche un petit peu. On a toujours été encadré pendant tout ce temps-là et de se retrouver seul, c'est pas nécessairement facile. Par contre, je pense qu'il faut se responsabiliser et d'aller chercher l'aide qu'on a besoin parce qu'il y en a de l'aide. Il s'agit de la trouver.
Ouais. Vous avez eu un diagnostic de dépression majeure.
Exactement.
Oui. Directement en lien avec le fait que vous étiez dans l'armée, puis vous avez quitté l'armée, puis ça a été un gros choc pour vous. 26 ans, c'est beaucoup d'années de service quand même, hein?
Oui, c'est beaucoup d'années de service. J'ai adoré ma carrière, sauf qu'en dernier, c'est les missions qui n'ont pas été faciles.
Vous êtes allé où, votre pire mission, Pascal?
C'est l'Afghanistan.
Ah oui. Mon Dieu, que...
J'étais partie 8 mois et demi. Et c'est ça, ça n'a vraiment pas été facile. On est isolé de tout. Les communications sont difficiles. Les téléphones cellulaires n'existent pas nécessairement là-bas. C'est difficile. Les liens sont très difficiles. L'Internet, on oublie ça.
Ouais.
Fait que c'est les lettres.
Et ça? Puis c'est la vie là-bas aussi. Là. C'est quand même assez incroyable. Ouais. Comme femme, Pascal, en Afghanistan, comment vous avez trouvé ça?
Comme femme, honnêtement, j'ai jamais eu vraiment de problème au niveau... quand j'étais, mettons, caporal ou soldat, c'est plus en montant en échelon que ça a été plus difficile. Mettons, adjudant, moi, je suis sortie, j'étais adjudant. Donc, ça, ce moment, ces moments-là, ça a été plus difficile parce que j'avais de l'autorité.
Il y a certains gars qui doivent avoir de la misère avec ça. Hein?
Il y a beaucoup de compétition.
Exactement.
Aussi, hein?
Oui, c'est ça, compétition.
Merci, Pascal.
Donc, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire puis de nous appeler. On a Rémi qui est avec nous, qui est un militaire actif. Vous êtes toujours dans les forces armées, mais Rémi?
Oui, je suis encore dans les forces armées. Ça fait 34 ans.
Il y a 34 ans. Là, vous écoutez tout le monde ce matin. Vous en pensez quoi de notre discussion?
Là, vous savez, je voudrais mentionner à la madame qui cherchait son père d'écrire aux Archives nationales du Canada.
OK, c'est la bonne place, hein, ça a l'air. Ouais.
Oui, parce que j'ai fait venir le dossier de l'oncle à ma conjointe qui est mort durant le débarquement de Normandie, puis c'est là que je l'ai trouvé.
Bon, OK, Archives nationales du Canada. Puis vous, là, choc post-traumatique, ça vous dit quoi? J'espère que ça va bien, votre santé?
Moi, j'ai 3 tours en Bosnie, dont un durant la guerre en 93. J'ai un tour en Afghanistan... où ce que j'étais adjudant de troupes dans un escadron de reconnaissance blindée, donc j'étais sur le terrain. Hey. J'ai combattu. On a perdu quelqu'un 3 semaines après être arrivé. On n'avait même pas encore tout le monde sur le terrain. On était, comme on dit, en changeover. On était en passation des consignes avec l'unité avant nous autres. On a perdu la caporale Karine Blais 3 semaines après qu'on soit arrivé, qui a sauté sur une bombe. Ça nous a tout affecté. Moi, j'ai été diagnostiqué avec des troubles d'anxiété généralisée. Je suis suivi par un psychiatre, un psychologue, mais ça va quand même bien. Puis ça, c'est ma conjointe. C'est ma conjointe qui m'a vu changer tranquillement pas vite depuis mon tour en 2009. Juste qu'au temps qu'en mars passé, en Pâques passé, durant Pâques passé, durant le visite, que je pète une coche monumentale, mais assez forte pour faire peur à ma femme et à ma fille. Puis ça, c'était tout le résultat de tout ça. Puis là, j'ai réalisé que je les ai fait tellement peur que j'ai dit qu'il faut que j'aille consulter. Puis c'est là que j'ai été diagnostiqué.
Mais vous êtes toujours dans l'armée?
Oui, toujours.
Est-ce qu'elle vous aide, l'armée, avec des soins, justement?
Oui. Ah oui, ça n'a pas pris de temps. Aussitôt que j'ai été consulté, mon médecin traitant aux Forces armées canadiennes, elle m'a référé... Ça a pris du temps, mais elle m'a écouté. Elle m'a écouté, puis assez par où... Tu sais, j'étais pas le premier, puis ça s'est beaucoup amélioré.
Ça a tellement été long avant qu'ils reconnaissent. Est-ce qu'ils le reconnaissent, le syndrome post-traumatique, aujourd'hui, l'armée canadienne? Ils le reconnaissent, mais oui. Ça fait pas longtemps, là.
Oui.
Une couple d'années.
Ils le reconnaissent. Ouais. C'est beaucoup plus, là. C'est reconnu. Encore aujourd'hui, il y a encore des problèmes... pour certaines personnes là, qui veulent pas faire le pas, là, puis qu'ils pensent encore que c'est pas vrai, là, mais ça, c'est...
Ou que c'est un signe de faiblesse. Il y a du monde qui pense ça dans l'armée, là.
Oui, mais c'est pas un signe de faiblesse.
Mais non, certainement
plutôt,
pas.
C'est plutôt courageux de... Il faut beaucoup de courage pour reconnaître qu'on a un problème.
Tellement vrai.
regardez, là, c'est pas une job, là. C'est une vocation qu'on a, puis on donne notre vie à ça, puis on mérite d'être reconnu pour qu'est-ce qu'on fait.
Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire ce matin. Bravo. Merci beaucoup, Rémi. Merci de votre engagement qui dure, hein. Puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous, puis je sais que les soldats sont pas forcément les meilleurs pour prendre soin d'eux-mêmes parce qu'ils prennent soin des autres. C'est un soldat qui dit ça dans ce livre. Je vous recommande ce livre-là, hein. Allez vous procurer ça. C'est publié aux Éditions de l'Homme. Ça vient de sortir. Ça s'intitule « Moi, soldat ». Ce sont des récits de service et de sacrifice. C'est écrit par un militaire, un ancien militaire, Kevin Daigle, et Marie-Andrée Fallu, qui a été elle-même femme de policier et qui a beaucoup... qui connaît bien ce que c'est que tous les métiers dans les forces de l'ordre. Merci beaucoup, Mélanie Saint-Onge. Merci. Je rappelle que vous êtes chez Garda World, que s'il y a des anciens militaires qui cherchent...
Juste à nous écrire dans l'onglet gardaworld.com. Effectivement, il y a un onglet pour nous écrire.
Rappelez-le, c'est
gardaworld.com. Alors, juste nous écrire. On a des gens qui sont affectés à ça. On vous répond, c'est certain.
Merci beaucoup, Philippe Lacroix. Bonne chance, bonne continuation.
Merci.
Merci beaucoup de votre témoignage.
Il ne faut pas oublier de prendre... une petite minute de silence le dimanche, le 11.
Oui, le 11 du 11.
Le 11 du 11 à 11h11.
À 11h11, on va s'en souvenir. Merci beaucoup de m'avoir permis de rendre hommage à nos vétérans et à nos militaires actifs. On va s'arrêter ici, on va parler de bière. Hein, regarde, ça finit bien notre affaire. Une bière, pas n'importe laquelle, avec des restes de pain. Est-ce que ça te tente de prendre une petite bière au pain? Tout de suite après.